RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense, donc j'agis. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre et depuis 1999, je le rappelle, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a parlé pendant une heure du MeToo politique. On va s'intéresser au milieu professionnel, au monde du travail. Comment on peut lutter contre les violences faites aux femmes dans le monde du travail? Vous avez la parole, bien sûr, pour apporter vos témoignages. Vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation. Vous avez été victime de harcèlement, de violence dans votre milieu professionnel. Vous êtes employeur également. Vous avez été témoin de harcèlement sexuel, de violence sexuelle dans votre entreprise. Vous laissez vos messages dès maintenant par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Vous rejoignez le groupe Facebook Je pense donc j'agis et vous venez à l'antenne. C'est Mélissa qui patiente au standard au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF.
Et en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, quelle est la situation concernant les droits des femmes au Maroc? C'est ce qui intéressera Alice Champset du CCFD Terre Solidaire. On la retrouvera à 10h20 et puis un petit peu plus tard à 10h50, c'est Bérénice Charles de RCF à Grenoble qui nous présentera trois initiatives nées dans les quartiers qui tentent de faire avancer les choses en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Bonjour Louisette Tiouchichine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes la fondatrice de l'association Le Cap. C'est une association plutôt ancienne hein, qui existe depuis 2004 que vous allez nous présenter dans un instant. Bonjour Marie-Josée Hay.
Bonjour.
Bienvenue sur RCF. Merci d'être avec nous en direct de nos studios à Bordeaux. Vous êtes la coprésidente de l'association En Parler. C'est une association un peu plus récente, Marie-Josée, puisqu'elle est née d'un livre.
Elle est née d'un fait d'actualité, oui. Sandrine Rousseau, et l'affaire Baupin. Elle a écrit un livre suite à cette affaire qui s'appelle « Parler ». Et compte tenu des retours qu'elle a pu avoir de personnes lui disant que elle se retrouvait dans ce livre et le manque d'espace de parole de victimes entre victimes, elle a créé l'association « Parler », qui s'appelle aujourd'hui « En Parler ».
Oui. Que vous avez rejoint, vous, rapidement après la création de l'association?
Dès le début, j'ai vu Sandrine Rousseau à la télévision au moment de l'affaire Baupin et je trouvais que ce qu'elle évoquait me convenait, en fait, sa posture. Et j'ai vu qu'elle avait l'intention de créer une association. Étant sur Bordeaux, j'étais à la recherche... d'espace, moi aussi, j'étais peut-être prête à parler. Donc, je l'ai contactée directement. Et puis, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose sur Bordeaux, s'il y avait des projets, si elle avait besoin. Et en fait, on a mis en place l'antenne sur Bordeaux à partir de ce moment-là. Donc, la première réunion sur Bordeaux date de novembre-décembre 2017.
Oui. Avec un objectif qui n'a pas changé depuis la création de l'association, c'est d'accompagner les victimes de violences sexuelles. Concernant le monde professionnel, le milieu du travail, est-ce que là aussi, l'association En Parler s'est beaucoup mobilisée?
Alors, les victimes viennent comme elles le souhaitent.
Oui.
Et elles viennent de tous horizons. Donc, les agressions sexuelles, elles ont lieu dans la famille, elles ont lieu de partout, hein, et milieu professionnel bien entendu. Donc on accueille qui que ce soit à partir du moment où elle vient évoquer ce sujet-là. Et bien sûr qu'on a pas mal de personnes qui viennent et qui évoquent leurs difficultés dans le cadre professionnel. Et est-ce que ça engendre aussi par la suite quand on dénonce ces actes-là?
Louisette Tiouchichine, alors vous avez fondé l'association Le Cap en 2004, je le disais il y a quelques instants, dans la région PACA. Pourquoi vous l'avez créée à l'époque, cette association, surtout pour lutter contre ces formes de discrimination, de violence dans le monde professionnel?
Alors j'ai créé cette association parce que j'ai moi-même été victime de harcèlement et que j'ai toujours été une passionnée en plus par le droit du travail. et que le harcèlement au travail, ça se situe au travail, avec des règles qui sont des règles précises qui concernent le monde du travail. Et donc, j'ai voulu, justement, au travers de cette association, aider, accompagner et tenir compte de mon expérience, parce que je sais à quel point c'est compliqué, et c'était encore plus compliqué dans les années 2000, parce que c'était encore moins reconnu qu'aujourd'hui. Et j'ai voulu justement qu'il y ait un espace où les personnes puissent venir et être accompagnées pour faire évoluer justement les choses et pour faire en sorte que ces situations de harcèlement sortent du tabou, parce que c'était en 2000 encore plus tabou que oui. ce que ça ne l'est aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on a des avancées sur le harcèlement sexuel, et notamment, c'est vrai que le gouvernement actuel a fait beaucoup pour lever les tabous sur les situations de harcèlement sexuel, des violences sexistes, mais c'est vrai que sur le harcèlement moral tout court, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mmh.
Vous dites que c'était un sujet tabou. Est-ce que c'est toujours tabou, ce harcèlement au travail, ces violences faites aux femmes dans le milieu du travail, ou alors vraiment ça bouge depuis quelques années ?
Alors on peut dire quand même que ça a bougé. Il y a eu une évolution très favorable au niveau des victimes. Aujourd'hui, on les écoute beaucoup plus. Et c'est vrai, après ce sont des situations qui ne sont pas compliquées à prouver, mais les personnes souvent ne se défendent pas, d'où leur difficulté après à pouvoir apporter des éléments. Mais aujourd'hui, on peut dire quand même que ce sont des situations qui sont beaucoup plus entendues que ce que ça a été en 2000.
Vous confirmez, Marie-Josée Hay, il y a une vraie avancée en matière de parler. On dit souvent la parole se libère. Est-ce que vous avez l'impression quand même qu'on parle beaucoup plus de ces problématiques, de ces violences ?
On parle beaucoup plus.
Oui.
Le souci, c'est l'écoute.
Ah oui.
En face, on n'a pas des gens formés, on n'a pas des gens qui ont envie d'entendre. Si on parle de difficultés au travail, pour beaucoup, il y a le problème de hiérarchie, le souci de perdre son poste. Les victimes qui viennent dans l'assaut, et moi, celles que j'ai rencontrées, donc on a 10 antennes en France, j'en ai rencontré dans plusieurs antennes, elles ont perdu leur poste, hein, tout simplement. D'une agression sexuelle ou de récurrence d'agression sexuelle, quand la victime ose parler, en fait, c'est du harcèlement moral, et on fait tout pour la faire craquer. Bien souvent, ça finit en longue maladie et puis en licenciement. Mmh. C'est super compliqué, en fait. Ça dépend. Là, je vous parle d'entreprises privées, mais on peut parler de la médecine, on peut parler de plein d'autres secteurs où un jeune médecin qui va parler n'aura pas le poste qu'il avait prévu d'avoir. Il y a plein d'exemples, en fait. Oui, la parole se libère, mais derrière, on n'a pas toujours l'écoute qu'il faut et on n'a pas toujours la posture qu'il faudrait.
Elle se libère peut-être aussi un peu tard, cette parole, Louisette Tiouchichine. C'est ce que vous me disiez hier qu'on a préparé ensemble l'émission. La prévention, elle est très importante, parce que parfois les personnes parlent trop tard, quand justement, par exemple, des femmes qui ont été victimes de harcèlement n'en peuvent plus. Il y a la démission, il y a le burn-out, alors qu'on aurait pu faire un travail, mais avant.
Oui, tout à fait. La prévention est très importante. Parce qu'il est vrai qu'il ne suffit pas de dénoncer, il suffit aussi de savoir comment on va le dénoncer. Et c'est là, quelquefois, que les victimes aussi se font piéger. Parce qu'il y a plusieurs formes de harcèlement. Il n'y a pas un harcèlement au travail, même si la répétition s'impose dans le harcèlement moral. Dans le harcèlement sexuel, pas forcément selon les situations, mais dans le harcèlement moral, oui. Mais par contre, la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est bien se défendre, parce qu'il y a plusieurs formes de harcèlement et plusieurs types de harcèlement. Il peut y avoir un harcèlement dit stratégique, c'est-à-dire c'est celui qui vient d'en haut, et là, quand tout vient d'en haut, on est vraiment dans des profils de nettoyeurs, où la manipulation mentale, elle est de mise. Mais il peut aussi y avoir des relations interpersonnelles. Et quelquefois aussi, le harcèlement, c'est la situation de salariés entre eux. Alors ça peut être lié à des situations, où on a l'impression qu'on serait dans une école maternelle. Ça peut être de la jalousie, ça peut être « elle a eu le poste et moi c'est moi qui aurais dû l'avoir », etc. Et donc, c'est là que les employeurs, ils peuvent avoir un rôle très important. C'est pour ça que il y a 2 ans, on a mené toute une campagne, et d'ailleurs on a laissé la charte en ligne. C'est une charte qui s'appelle Pas de sexisme dans mon entreprise,
oui.
Dans laquelle on demandait aux employeurs de signer cette charte en contrepartie de sensibilisation. Et l'objectif, c'était justement de dire aux employeurs, c'est vous qui pouvez agir. C'est-à-dire parce que quand on intervient auprès des victimes, moi je me suis rendu compte, et on n'a pas les moyens, parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de moyens pour ces situations-là, et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour traiter des dossiers, parce que ça demande quelquefois de longs mois pour constituer un dossier correctement. Et mais ce sont les employeurs qui doivent agir, parce que sinon on est toujours dans le curatif. Mmh. Et l'employeur, il leur appartient de sanctionner. Il leur appartient de pouvoir licencier. Et nous, quand on a fait justement cette campagne, moi j'ai eu par la suite des employeurs qui ont découvert au sein de leur entreprise, même s'ils le savaient déjà, ils ont un peu plus ouvert les yeux, et ils se sont séparés de personnes qui étaient finalement des personnes qui étaient nuisibles au sein de leur entreprise. Donc je pense que le volet entreprise est très important. Je parle pas encore une fois des structures dans lesquelles c'est stratégique parce que ça vient d'en haut, parce qu'on veut compresser les effectifs.
Oui.
Je parle de structures privées qui sont quelquefois en danger par méconnaissance de ce que c'est le harcèlement au travail. C'est pour ça qu'il faut impérativement qu'ils sensibilisent et qu'ils se forment eux-mêmes à identifier les comportements qui seraient susceptibles de générer des situations de discrimination et de harcèlement au travail.
Mais vous dites se former eux-mêmes, ça peut être compliqué aussi parfois pour des employeurs de se former. Ça nécessite quand même des formations, des vraies formations, c'est-à-dire des intervenants qui viennent parler de ça sans tabou. Louisette.
Oui, ça, oui. Alors, moi, je l'ai vu. Alors, encore une fois, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à le faire, effectivement. Mais moi, j'ai vu que notamment toutes les organisations patronales dans la région se sont mobilisées sur ces questions-là. Et c'est-à-dire qu'on a très souvent, et malheureusement, quand on parle de ces sujets-là, c'est trop clivant. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est l'employeur contre le salarié.
Ouais.
Mais selon moi, en tout cas, la manière dont je l'aborde au niveau du droit. Et quand on parle au niveau du droit, c'est-à-dire que c'est objectif, on a des définitions, et ensuite on parle des comportements qui rentrent dans ces définitions-là. Là, si vous voulez, tout le monde prend du recul, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire telle personne et telle personne, enfin les entreprises sont des méchants et les salariés sont toujours des victimes, parce que malheureusement, encore une fois, et moi je le vois notamment dans le harcèlement sexuel, où vous avez quelquefois même des femmes qui se mettent du côté des harceleurs. C'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas que des collègues de travail. Moi j'ai un cas actuellement où les collègues de travail ne parlaient plus à une victime, d'ailleurs qui a perdu son emploi, parce qu'elle avait dénoncé une situation d'agression sexuelle et qu'elle est allée porter plainte. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut faire comprendre à tous que c'est pas un quelque chose de clivant, il s'agit tout simplement de droits, de comportements qui ne trouvent pas leur place au travail, tout simplement.
Marie-Josée, hey, vous êtes d'accord avec ce que dit Louisette? Ah, écoutez,
je... Il y a un gros souci, mais on a souvent la peur... Je pense aux victimes que j'évoquais tout à l'heure. En fait, elles se sont retrouvées très seules dans des entreprises qui étaient quand même... avec un nombre de salariés important. La posture des autres, des collègues, qui étaient jusque-là des collègues, ne l'était plus. C'est ça qui est compliqué, en fait. À quel moment la peur de l'environnement prend la place à la parole? À la parole et à l'écoute, c'est-à-dire qu'on supporte la personne qui a été harcelée, agressée, et qui est démise petit à petit de ses fonctions. La formation, l'information est quelque chose de primordial, de récurrent, quelle que soit la problématique, hein, d'ailleurs. Il faudrait qu'il y ait systématiquement et obligatoirement des formations de ce type-là dans toutes les entreprises.
Et là, actuellement, c'est pas forcément le cas? Ou alors ça va doucement?
Mais je pense que les formations sont faites au bon vouloir de du chef d'entreprise. C'est-à-dire que si un salarié demande une formation, si ça rentre dans son, je sais plus, CPF, je crois, et si le patron accepte, c'est bon. Mais la formation globale de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on accepte de faire venir un intervenant quelques heures, une journée, pour évoquer avec tous les salariés une vraie problématique. Là, c'est plus compliqué.
Marie-Josée Hay, je rappelle que vous êtes la coprésidente de l'association En Parler. Vous pointez du doigt cette importance de parler, hein, forcément, puisque c'est le nom de l'association aussi. Mais en parler à qui? Qui écoute ces femmes victimes de violences, de harcèlement, violences sexuelles au sein de l'association?
Au sein de l'association, oui. Ce sont des victimes, ce sont des groupes de parole entre victimes.
Oui.
L'objet, c'est d'être un lieu différent de ce qu'on peut trouver. En général, quand on parle, une victime parle à un proche, une fois, deux fois, si elle n'est pas entendue, c'est compliqué. Et souvent, elle se rabat sur elle-même et a du mal après à réouvrir la parole. Mais il y a plein de lieux. Il y a son thérapeute, il y a le commissariat de police, la gendarmerie, il y a le psychologue. Il y a plein, et puis il y a plein d'associations aujourd'hui. Sur Bordeaux, on travaille en collaboration avec, par exemple, le centre régional de psychotrauma. On vient de signer une convention de partenariat pour que nous, on puisse apporter notre, entre guillemets, expertise de victime dans la formation des professionnels qui accueillent la parole, qui doivent être à l'écoute. Et eux, à partir de ça, travaille sur la formation des professionnels. C'est-à-dire que autant on a la parole d'un côté et on avait l'écoute de l'autre avec un énorme fossé, l'objectif c'est de réduire ce fossé au maximum et qu'une personne qui crie et qui essaie de parler puisse avoir l'écoute adaptée et qu'elle soit dirigée vers le professionnel aussi. Adapté. On a un problème d'écoute aussi à la police, à la gendarmerie. Il y a beaucoup de choses qui sont faites.
Oui.
Mais il y a encore énormément de travail. Mmh. On avait la commission Civise à Bordeaux vendredi dernier. Outre la réunion publique qui a eu lieu le vendredi en fin de journée, il y a eu pas mal de choses faites avant, des rencontres entre professionnels et institutions qui interviennent sur le terrain. Et là, il a été évoqué toute la difficulté, justement, c'est-à-dire qu'on a un discours, on nous demande de faire, ou il est demandé de faire telle et telle chose, mais il faut avoir le personnel, il faut avoir les moyens financiers, et c'est pas un manque forcément de volonté des professionnels.
Manque de subventions, peut-être aussi, pour soutenir les actions de votre association, Louisette Tiouchichine.
Ah, sur le harcèlement au travail, c'est une catastrophe.
Ah oui.
Si vous voyez les moyens qu'on a pour ça... D'ailleurs, on a réduit énormément la voilure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accompagner à un moment comme on accompagnait.
Mais comment
parce
ça
que
se fait?
Parce que c'est vrai qu'on est des êtres humains, nous aussi, et qu'on se retrouve nous-mêmes à un moment en souffrance professionnelle. Donc c'est vrai que, et je dirais même qu'on a eu même des dotations qui ont été soit complètement disparues, soit baissées, alors même que déjà on avait très très peu de moyens là-dessus. Et c'est vrai que du coup... Et les victimes ne le comprennent pas toujours, et je le comprends, parce que le traitement des dossiers, notamment pour éviter que les victimes, notamment pour définir quel est le profil, et justement à partir du moment où on va identifier quel type de harcèlement elle subit, les méthodes pour pouvoir se défendre et garder son emploi, parce que nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de faire en sorte que la personne puisse préserver son emploi. Nous, on propose des médiations dans les cas de harcèlement au travail aux entreprises, mais c'est un temps considérable. Quand vous faites une médiation, il faut envoyer un courrier, il faut donc inviter les parties à venir. Quand elles viennent, c'est 3 heures d'entretien, parce qu'il faut un entretien avec l'employeur, un entretien avec les victimes. Ça demande un temps fou, et c'est vrai qu'il faut des moyens. Et donc nous, on a énormément, on est obligé de trier les dossiers et de pas toujours suivre comme on le faisait à un moment donné, parce que nous-mêmes, à un moment donné, on s'est dit, il faut aussi qu'on se préserve. Il faut aussi qu'on se préserve, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens sur ces questions-là, malheureusement.
Je vous lis un message de Suzanne, qui vient d'arriver à l'adresse direct@rcf.fr. Je vous rappelle que vous avez toutes et tous la parole hein, pour apporter vos témoignages, nous parler de votre expérience. Vous pouvez appeler le 04 72 38 20 23, vous venez à l'antenne pour nous raconter. Suzanne qui nous dit « J'ai travaillé une dizaine d'années en milieu hospitalier comme infirmière. Une violence faite aux femmes est d'abord structurelle. Le personnel hospitalier était essentiellement féminin, il se trouve qu'elles acceptent tout où elles s'en vont. Les hommes sont plutôt dans les postes de responsabilité et les infirmiers acceptent rarement ces conditions et pourtant ils sont mieux payés. Sans oublier tous ces hommes, médecins, étudiants en médecine qui cherchent une compagne pour la prochaine nuit. Il faut toujours être sur la défensive et quelques-unes se font avoir. Louisette Tiouchichine, est-ce que vous avez pu rencontrer des femmes qui malheureusement ont connu une situation particulière dans le milieu hospitalier comme le souligne Suzanne?
Oui, bien sûr, dans le milieu hospitalier, dans la fonction publique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des réformes ces derniers temps pour imposer, notamment dans la fonction publique, dans les collectivités territoriales, de mettre en place des circuits de signalement et de traitement des situations. C'est vrai que actuellement, en tout cas, ce qui est fait, après, il faudra voir avec le temps oui. ce que ça donne. Est-ce que ce qui est en interne fonctionne? Parce qu'effectivement, en parler, mais est-ce qu'on parlait, on peut en parler à l'intérieur? Quelle est la confiance et quelle est la formation de ceux qui sont à l'intérieur? C'est très compliqué parce qu'il y a des CSE dans certaines entreprises. Donc, les membres du CSE aujourd'hui, il y a des référents sexistes de lutte contre le harcèlement sexuel, notamment, qui doivent être désignés. Mmh. Et en fonction de la taille de l'entreprise, il doit y en avoir un deuxième qui doit être plus un salarié du service RH, notamment. Donc, tout ça s'est mis en place dans la fonction publique comme dans le privé pour justement que ces situations soient traitées. Après, il va falloir voir avec le recul, quid de toutes ces structures, de toutes ces demandes qui sont faites de créer des circuits de signalement, etc. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est traité objectivement? Est-ce qu'en interne, on peut les traiter objectivement? Avec qui? Je pense que pour le moment, on n'a pas assez de recul pour savoir comment, si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les textes de loi aujourd'hui le précisent, c'est-à-dire qu'il y a des réformes, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau qu'il faut que ça cesse. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience parce que ça coûte une fortune à la sécurité sociale, ça crée des drames humains énormes parce que ce sont des gens qui perdent leur travail, ce sont des gens qui se retrouvent dans la précarité, oui. ce sont des gens qui divorcent, ce sont des gens qui n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants tellement qu'ils sont mal, ce sont des gens qui se suicident. Et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience à tous les niveaux, y compris au niveau de nos dirigeants, qu'il faut que ça cesse.
Il y a une prise de conscience.
Donc, on va voir plus tard.
Il y a une prise de conscience, mais maintenant, il faut agir. Et c'est ce qu'on fait ce matin dans Je pense, donc j'agis, en direct jusqu'à 11h avec nos deux invités, avec vos témoignages également. Vous continuez de nous joindre au 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne. Vous laissez vos messages anonymes, si vous le souhaitez, bien sûr, à l'adresse direct@rcf.fr. Dites-nous si vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation. Vous avez été victime de harcèlement ou témoin de violence dans votre travail, votre milieu professionnel. 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, on va partir au Maroc pour découvrir l'association Quartier du Monde avec vous, Alice Champset. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission Maghreb au CCFD Terre Solidaire. Quelle est la situation concernant les droits des femmes au Maroc?
Eh bien, comme dans de nombreux pays, la situation est assez critique. En 2019, une étude a montré que 60% des femmes marocaines avaient subi des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. Ce chiffre a augmenté pendant les périodes de confinement. Les associations de défense des droits des femmes au Maroc ont lutté pendant de longues années pour obtenir une loi qui soit plus protectrice des femmes et des filles, et ça a partiellement abouti en 2018 avec une loi qui fournit de nouvelles protections aux victimes. Mais cette loi reste très lacunaire sur de nombreux points, comme par exemple le financement des réformes. À cet enjeu législatif s'ajoute le poids des normes sociales qui entravent les libertés des femmes dans tous les domaines et notamment dans l'accès à l'emploi. Il faut savoir qu'au Maroc, le taux de participation des femmes à la population active reste l'un des plus bas du monde et il a même régressé en 20 ans. Même quand les femmes ont un emploi, c'est souvent dans des conditions très précaires. Pendant une de mes missions au Maroc, j'ai rencontré des ouvrières agricoles qui travaillaient jusqu'à 14 heures par jour avec des salaires en dessous du seuil légal, sans couverture sociale, sans congé maternité, sans retraite. Et ces femmes se mobilisaient pour défendre leurs droits.
Et que fait votre partenaire Quartier du Monde pour faire changer les choses sur place ?
Bien, comme vous le voyez, les défis sont nombreux, donc l'association mène plusieurs projets. Et évidemment, il y a certaines évolutions qui ne peuvent passer que par un changement de politique publique. Mais il y en a d'autres qui se jouent aussi au niveau sociétal et individuel. Et c'est pour ça que Quartier du Monde a développé un projet qui s'attaque aux stéréotypes intégrés très tôt par les garçons et les filles. L'association a créé un jeu destiné aux élèves de collège. Ce jeu met en avant les femmes qui ont contribué à l'histoire du Maroc. Avec des cartes illustrées, les élèves apprennent à connaître, par exemple, la Kahina, guerrière berbère du 7e siècle, Malika El Fassi, qui s'est battue pour le droit de vote des femmes au Maroc, Bouchra Baïbanou, première alpiniste marocaine à avoir gravi les plus hauts sommets du monde, et puis plein d'autres femmes avec des parcours marquants comme cela. En fait, Quartier du Monde utilise ce jeu pour pousser les jeunes à se questionner en leur demandant « Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ces femmes ? Pourquoi vous ne pourriez pas faire comme elles ? Et quelles femmes aimeriez-vous voir apparaître dans ce jeu ?» Avec cet outil, Quartier du Monde déconstruit les préjugés associés au fait d'être une fille ou un garçon et espère transformer les mentalités et donc les parcours de vie. C'est un jeu qui a été utilisé avec des centaines de jeunes et qui fonctionne vraiment très bien. Au-delà des élèves, Quartier du Monde forme aussi les professeurs, les éducatrices et les éducateurs et vise à terme l'inscription du jeu dans les programmes scolaires.
Eh bien, merci beaucoup Alice Champset d'être venue à l'antenne pour nous parler de votre partenaire, un partenaire du CCFD Terre Solidaire, c'est cette association de solidarité internationale Quartier du Monde. Marie-Josée, est-ce que vous connaissez cette association ? Est-ce qu'il est important aussi pour l'association en parler, d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs qu'en France, dans d'autres territoires en matière de protection des femmes ?
Alors l'association est nationale, mais on a des contacts avec des pays francophones qui souhaiteraient mettre en place des antennes. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est plus d'accompagner ces personnes pour mettre en place cette structure sur leur pays, en les aidant de notre entre guillemets expertise, hein, puisque nous ne sommes qu'aujourd'hui que des bénévoles. Mais oui, la problématique, elle est mondiale. Elle est mondiale, malheureusement. Les agressions sexuelles ne sont pas utilisées. On sait très bien aussi que l'agression sexuelle est utilisée comme une arme de guerre, donc le problème est énorme.
Marie-Josée, je rappelle que vous êtes la coprésidente de l'association En Parler. Louisette Tiouchichine, vous êtes la fondatrice de l'association Le Cap. Hein. Le Cap, alors on le rappelle, c'est parce que vous êtes une vraie passionnée en droit du travail que vous avez créé cette association. Vous aviez d'ailleurs vous-même connu du harcèlement. Est-ce que vous avez l'impression qu'en France, on est quand même bien protégé au niveau du Code du travail pour toutes ces questions de violence et de harcèlement ?
Oui, en réalité, il y a tout aujourd'hui, et les dernières réformes sont venues combler des lacunes, notamment dans les cas de harcèlement sexuel, puisque on est venu reconnaître le harcèlement sexuel, l'outrage sexiste, notamment la plus petite violence au départ, hein, c'est-à-dire les violences sexistes. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a un panorama législatif qui est très intéressant. Après, il faut l'appliquer.
Oui.
C'est toujours la question de l'application. Il faut l'appliquer, on voit quand même que ça bouge. Moi, je reçois pas mal de victimes avec des dossiers qui sont audiencés, parce que c'est vrai que pendant des années, on considérait que c'était qu'une question du conseil des prud'hommes, finalement, ou du tribunal administratif. Or, aujourd'hui, on voit dans des situations graves, quand les victimes déposent des plaintes, c'est vrai qu'il y a aussi des poursuites. Donc, on voit quand même qu'il y a un changement. Après, bien sûr que c'est pas suffisant et qu'on aimerait que ça aille encore plus loin, parce que on reçoit malheureusement, comme l'a dit tout à l'heure, la dirigeante hein, de l'association En Parler,
Marie-Josée,
malheureusement, voilà, malheureusement, on a encore des situations et beaucoup où ce sont les personnes qui dénoncent qui perdent leur emploi parce que ça finit toujours comme ça ou très souvent comme ça. Malheureusement, nous on a une situation actuellement d'agression sexuelle. Le fait d'avoir porté plainte a fait que la personne, on lui a dit au revoir. Hein, elle devait avoir une titularisation, elle l'a pas eu. Parce qu'elle a dénoncé, et ça c'est bien sûr qu'il y a un lien de causalité évident entre le fait qu'elle n'ait pas eu et le fait qu'elle ait porté plainte, vous voyez. Oui. Donc du coup, c'est quand même... On est en 2021 et chaque année, justement, on fête la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et moi, à chaque fois, je me dis quelquefois, mais vraiment, c'est hallucinant. On a l'impression qu'il n'y a vraiment rien à faire. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça évolue peut-être trop lentement. Mais en tout cas, les réformes, elles existent. Il y a aujourd'hui des lois. Mais par contre, il faut vraiment qu'elles soient appliquées. Et pour ça, il faut aussi des moyens.
Et on continue d'en parler jusqu'à 11h dans Je pense donc j'agis. Je vous lirai un message dans quelques minutes d'Annick de Montpellier qui nous parlera du milieu du sport. Là aussi, il y a de quoi dire. Vous continuez de nous joindre, bien sûr. Je rappelle ce numéro 04 72 38 20 23. Vous venez à l'antenne pour témoigner. Vous laissez vos messages également dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Il est 10h passé de 31 minutes. Vous avez été victime ou témoin de harcèlement sexuel, de violence sexuelle dans le milieu professionnel, dans votre travail. N'hésitez pas à nous joindre au 04 72 38 20 23. On vous attend à l'antenne. Laissez-nous vos messages également à l'adresse direct@rcf.fr. On se retrouve juste après Vianney et Mentissa.
Si tu crois un jour que je te laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence.
Si tu crains un jour je te laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer.
Oh, oh non, pas toi. Vraiment pas toi. Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir. Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tenté de rester seul dans un monde insensé.
Si tu crois un jour que tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je veux pas tout compliquer. Pourquoi se fatiguer?
Et commence pas à te cacher pour moi. Oh, oh non, non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore.
Parce que nous, c'est fort.
Parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner. Parce que c'est toi.
Rien que pour ça.
Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. Et non pas parce que c'est le moment. Que c'est toi.
Je veux te voir dedans.
Je verrai dans ses yeux tous ses petits défauts.
Parce que parfait n'est plus mon créneau. Parce que c'est toi.
Parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir.
Parce que c'est toi. Rien que pour ça. Parce que c'est toi.
Vianney en duo avec la chanteuse Mentissa pour cette reprise d'une très belle chanson d'Axel Red, Parce que c'est toi.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Nous sommes le 25 novembre depuis 1999. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On s'intéresse plus particulièrement jusqu'à 11h aux violences faites aux femmes dans le milieu professionnel. Nous sommes avec nos deux invités. Louisette Tiouchichine, vous êtes la fondatrice de l'association Le Cap, et Marie-Josée Hay, vous êtes la coprésidente de l'association En Parler. On va tout de suite accueillir Sandrine Dunord qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Je vais
vous laisser couper votre radio derrière, s'il vous plaît. Oui. Si ça ne vous dérange pas, comme ça, il n'y aura pas d'écho. Voilà, on pourra vous entendre distinctement.
Alors, je voulais témoigner que je suis contente de savoir que maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent dans la société, surtout au niveau des relations humaines. Dans l'Église, il y a eu tout ce qui se passe en ce moment pour ce dont on sait, tout ce qui se passe en ce moment. Mais au niveau des relations hommes-femmes, il y a vraiment un problème aussi au niveau dans le passé, parce que je suis âgée, hein. Donc il y avait vraiment un problème dans le travail.
Oui.
J'étais naïve et j'ai commencé à travailler en ayant un enfant en même temps. Et du coup, j'ai travaillé dans le milieu médical et j'ai été à un poste où je travaillais pour vraiment plusieurs médecins, à un poste où il fallait courir tout le temps. Et c'était très difficile pour moi. J'essayais de bien faire, mais ça a duré 2 ans. Mais les médecins voyaient que j'étais trop zélée et que je ne correspondais pas à leur mentalité. Et on ne m'a pas augmenté. Je gagnais la même chose que mon mari qui était surveillant étudiant. Donc j'étais jeune. Et donc on m'a fait comprendre il fallait mieux que je change de place en ne m'augmentant pas comme les autres, qui étaient tous des jeunes femmes. Et ça, c'est le milieu médical. J'étais un peu perdue, je me cherchais moi-même. Et il y avait un médecin avec lequel je travaillais qui m'a proposé de travailler avec lui, avec lequel j'avais un peu des sentiments, mais c'était la solution pour eux. Et donc, j'ai été dans ce cabinet de radiologie pour changer de travail. Et donc là, j'ai été victime de harcèlement sexuel. Je ne savais pas où j'en étais et j'ai craqué. Par la suite, j'ai divorcé. J'ai perdu mon travail, ils m'ont licenciée. Ils ont manipulé un peu mes parents qui étaient un peu perdus. Et ils ont harcelé mon mari de coups de téléphone.
Oui.
Et j'ai été hospitalisée. Et après, j'ai eu toute une vie où j'ai essayé de me retrouver. Le Seigneur était toujours là. Et j'ai pu me remarier, mais mes enfants ont énormément souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et je ne vais pas être trop longue, et je voulais vous dire que je suis vraiment contente qu'il y ait des choses qui existent et qu'on ait le droit à la parole, et que pour moi c'est difficile de prendre la parole et de...
Vous avez réussi, en tout cas, de prendre la parole ce matin, et merci vraiment Sandrine d'être venue à l'antenne, d'avoir eu le courage aussi de raconter votre histoire. C'était très très touchant, intéressant aussi pour construire cette émission. Je pense que Marie-Josée, voilà, vous voulez peut-être réagir aussi sur ce témoignage.
Oui, c'est vrai que le témoignage est très touchant, mais il faut savoir que malheureusement, ce sont des histoires récurrentes. Oui. Beaucoup de ces femmes ont une vie détruite. De toute façon, l'agression sexuelle, il faut savoir qu'on vit avec. Quand on s'en sort pas trop mal, on vit avec. On est obligé de vivre avec. Mais c'est une vraie déflagration intérieure. Hein. Vous pouvez pas vous en remettre comme ça. Si on est mal accompagné, c'est pire. La grosse majorité des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ont fait des tentatives de suicide. C'est très très compliqué. Je me permets de rebondir parce qu'hier j'étais à une réunion. Il y a un observatoire des violences sexistes et sexuelles qui a été mis en place sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et hier, il était question des femmes handicapées. Et 80% des femmes handicapées ont été violentes ou sont violentes de façon récurrente de violences sexuelles et sexistes, de non-respect, hein, tout simplement de leur individu. Si on reprend les chiffres sur... l'année 2020-2021, sur la région, on a une augmentation des violences sexuelles de plus de 20%, ce qui est énorme. Des violences conjugales globales à 18%, tout en considérant que dans ces violences conjugales, il y a les violences physiques, les violences psychologiques, les violences morales et les violences économiques. C'est vrai qu'il faut en parler, il y a le travail, mais il y a tout l'environnement professionnel.
Oui. Louisette Tiouchichine, vous voulez vous aussi peut-être réagir au témoignage de notre auditrice qui est venue il y a quelques instants à l'antenne, Sandrine ?
Oui, ce que disait cette dame, c'est malheureusement le lot de beaucoup de femmes, c'est-à-dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça entraîne une destruction de la vie. C'est pas souvent on dit mais pourquoi elle change pas de travail, vous voyez, c'est-à-dire c'est quelque chose de très simple. Alors maintenant, la nouveauté, c'est de dire signer la rupture conventionnelle. Comme si de perdre son travail, c'était rien. Vous allez vous retrouver avec 40-60% de moins, parce que les réformes ont pu en changer. Vous allez vous retrouver avec une perte de salaire considérable.
Oui.
Et on vous dit, non, mais c'est pas grave, perdez votre travail, partez. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact que ça a dans sur la vie des personnes. C'est-à-dire que ça entraîne généralement des divorces. Hein, c'est ce qui s'est passé pour cette dame. Parce que quand vous êtes mal et que vous êtes mal chez vous, eh bien forcément, ça va mal se passer aussi chez vous. Alors souvent, on dit, même si ça tend à changer, « Ah, mais la personne, elle est harcelée, mais en fait, c'est parce qu'elle a des problèmes personnels. » Mais non, mais le problème, c'est que c'est le travail, des fois, qui entraîne des problèmes personnels. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, c'est un peu comme dans le sexisme, etc. C'est-à-dire, on a des préjugés, et puis, finalement, ces préjugés, ça va toujours être « Mais non, mais c'est sa faute à elle. C'est elle qui sait pas s'adapter. C'est elle qui... » C'est pour ça que c'est très compliqué. Et encore une fois, cette dame a été victime il y a
quelques années,
donc c'est encore plus difficile parce que effectivement, elle pouvait encore moins, je dirais, en parler qu'aujourd'hui.
Françoise est avec nous depuis la Loire au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Alors moi, j'ai pas vécu du harcèlement sexuel, mais du harcèlement moral.
Oui. Au travail.
Oui, au travail. Et c'était au sein de l'hôpital. Et c'est parti d'un conflit hein, tout bête où je me suis positionnée par rapport au médecin, où j'ai dit que non, c'était pas juste ce qu'elle me disait. Et là, c'est parti. Et en fait, moi, ce qui me questionne beaucoup, bon, c'est déjà vieux, hein, j'ai vécu ça en 2002, mais moi, ce qui me questionne beaucoup, c'est vraiment tout ce qu'on dit, comment ça se retourne vers la personne, quoi, enfin, le rôle du groupe et pourquoi le groupe, il réagit comme ça, non seulement à pas pouvoir... à pas pouvoir entendre, à pas pouvoir prendre la mesure et à voir que en premier, à penser qu'en premier ça vient de la personne. Alors je me dis j'aimerais bien qu'on analyse plus qu'est-ce qui se passe du côté du groupe, quoi.
Oui.
Pourquoi l'effet que ça me fait, c'est que les gens ils aiment pas les conflits d'une façon générale et qu'ils ont tendance à penser que c'est un truc qui appartient aux deux là, qui se débrouillent, ou voire à penser que ça vient de celle qui est harcelée, quoi.
Et de ne pas croire la victime.
C'est pas tant pas croire parce que les gens voyaient, hein, mes collègues elles ont vu des choses. Il y en a une, elle m'a dit une fois si ça me tord le ventre. Mais par contre, personne ne disait rien. Et mon fils, il en avait vécu à l'école en cinquième, et il m'a dit les mêmes choses. Il me disait mais maman, c'est tous des moutons. Il me disait c'est tous des moutons. Ouais. Il y en a un qui me dit, mais moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il te fait, Adam, mais j'ai peur qu'il me fasse pareil. Alors, est-ce que c'est ça?
Ça fait vraiment écho au harcèlement scolaire, hein, je trouve, ce que vous racontez ce matin, Françoise. Merci beaucoup d'avoir apporté cet élément pour cette émission. Marie-Josée, est-ce qu'on peut parler de l'effet de groupe? Est-ce qu'il y a un vrai effet de groupe dans le milieu professionnel, le monde du travail? Ou peut-être que, en tant que salarié, on va se protéger par rapport à ce qui se dit, par rapport aux rumeurs, pour protéger son emploi? Est-ce que c'est peut-être une conclusion un peu rapide de ma part, mais il y a peut-être un effet de groupe qui est réel?
Il y a peut-être un effet de groupe.
Oui.
Mais il y a je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Les gens n'aiment pas les conflits, c'est une chose, mais c'est à la victime à prouver qu'elle a été agressée. Et l'auteur est présumé innocent tout pendant qu'il n'est pas condamné. Donc la difficulté, c'est que c'est la victime qui pose souci aujourd'hui pour les autres, parce qu'elle remue un fonctionnement. Tout environnement, tout groupe est une mini-société. Hein. Il faut, elle a son mode de fonctionnement, que ce soit la famille, que ce soit une petite entreprise ou une grosse entreprise. Il y a une hiérarchie, il y a celui qui a l'autorité. On a le droit de parler ou pas. Tu vas avoir le droit de manger ou pas. On peut transposer une famille et une entreprise. C'est complètement la même chose. Tout pendant qu'on n'aura pas une vraie écoute, là je reviens à l'écoute en fait, une vraie écoute de la victime en disant si tu parles, c'est qu'il y a une vraie problématique et on va écouter et on va se poser les vraies questions et les bonnes questions, on avancera à mon sens beaucoup mieux.
Alors justement, Marie-Josée, bonne transition puisqu'on a une auditrice qui nous appelle depuis Royan, c'est Marie-Anne hein, qui voudrait parler de l'association En Parler, dont vous êtes la coprésidente Marie-Josée. Bonjour Marie-Anne. Marianne, est-ce que vous m'entendez au 04 72 38 20 23? Est-ce que vous êtes là, Marianne? Marianne, vous avez raccroché. Bah écoutez, Marianne, si vous nous entendez à la radio, vous nous rappelez au 04 72 38 20 23. On vous accueillera avec plaisir dans cette émission pour nous parler peut-être aussi de votre expérience, de ce que vous avez vécu. Alors, je continue à lire les nombreux messages. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous joindre hein, ce matin. Catel nous dit dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis en 1980, jeune infirmière sortant de l'école, j'ai failli être violée par un médecin. J'ai pris rendez-vous avec le directeur qui m'a dit que je comprendrais plus tard. Et depuis, certains sont ainsi devenus cadres. Bon, alors j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup de messages ce matin. Louisette Tiouchichine, du milieu professionnel. Est-ce que les cas de harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence sexuelle dans le milieu professionnel sont plus nombreux dans certains domaines comme le milieu hospitalier, ou alors c'est vraiment généralisé à tous les domaines?
Alors, je ne sais pas s'il y en a plus dans le milieu hospitalier qu'ailleurs, mais oui. En tout cas, c'est clair que tout ce qui relève des collectivités, la fonction publique, je dirais, n'est pas épargné. Il y en a partout. Donc, je ne suis pas étonnée de ces témoignages dans les hôpitaux. Je ne suis pas du tout étonnée, sachant que certaines fonctions publiques sont beaucoup plus complexes dans le fonctionnement, parce que c'est vrai que ce sont des structures qui sont quand même, par exemple l'éducation nationale, etc. C'est vrai que c'est très compliqué souvent pour les personnes d'en parler. D'où j'espère que ces réformes qui imposent de mettre des circuits en place pour faire en sorte justement que les personnes puissent parler, j'espère que ça va donner des résultats, parce que la réalité c'est que il y a des endroits où c'est vraiment des rouleaux compresseurs qui se mettent en place. Et tout ce qui concerne un peu la fonction publique d'État quand même, hein. C'est-à-dire que quand vous avez une situation dans certains endroits, c'est vrai que c'est encore plus compliqué parce qu'il y a une machine, c'est un rouleau compresseur qui se met en place. Alors encore une fois, il y a des réformes actuelles qui essaient de faire changer ça. Ben, on verra si ce qui doit être mis en place, ce que la loi impose, parce qu'il faut quand même bien préciser, et on parle tout à l'heure des entreprises privées, mais comme dans le public, il y a une obligation d'évaluation des risques professionnels. Il y a une obligation de prévention des risques. Et tout ce qui relève des agissements sexistes, tout ce qui relève du harcèlement moral, tout ce qui relève des discriminations et notamment du harcèlement sexuel, il y a une obligation de sensibilisation. Et aujourd'hui, on a quand même des jurisprudences, parce qu'il faut après regarder les jurisprudences, que ce soit des jurisprudences du Conseil d'État, que ce soit des jurisprudences de la Chambre sociale de la Cour de cassation, qui sont quand même, je dirais, très au fait des problématiques que rencontrent les victimes. Certes, souvent, elles ont perdu leur travail. Certes, très souvent, elles ont été en arrêt maladie. Quelquefois, elles ont eu du mal à rebondir. Derrière, on a des personnes ensuite qui se retrouvent en invalidité. Mais c'est vrai qu'au niveau de la jurisprudence, ce que l'on voit, c'est que les juges sont sévères sur ces questions-là. Et donc, c'est quand même rassurant. Oui. C'est très rassurant. Parce qu'on voit quand même que les magistrats, quelque part, s'adaptent aussi à ces problématiques de société, qui étaient certes un tabou avant, mais aujourd'hui, c'est reconnu. Et je vous assure, quand vous regardez tous les arrêts du Conseil d'État, c'est-à-dire qui concernent la fonction publique, on a des jurisprudences qui estiment d'ailleurs que le référé est légitime, je ne ferai pas lecture des décisions du CIS, mais qui sont extrêmement sévères dans ces situations-là. Et donc, c'est très rassurant.
On attend vos témoignages. Je vous appelle au 04 72 38 20 23. Si Marianne de Royan pouvait nous rappeler, ce serait avec plaisir pour l'entendre à l'antenne. 04 72 38 20 23. Également par mail à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook. Je pense, donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour Bérénice Charles.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste pour RCF à Grenoble. Alors aujourd'hui, je le rappelle, c'est la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et c'est l'occasion de présenter ensemble trois initiatives nées dans les quartiers, dans les banlieues et qui tentent de faire avancer les choses.
Et oui, ben d'abord, je vous emmène en Seine-Saint-Denis, Melchior, oui. Le département malheureusement le plus touché par les violences intrafamiliales. C'est ici que le ministère de l'Intérieur expérimente depuis mi-novembre un dispositif de plainte hors les murs. Alors l'idée, c'est de permettre aux victimes de déposer une plainte depuis une mairie, un cabinet d'avocats, ou même depuis leur domicile ou celui d'un proche, en présence bien sûr d'un policier ou d'un gendarme. Car cette étape du dépôt de plainte, elle est très souvent compliquée hein, pour les victimes et les associations continuent de pointer du doigt la double peine de ces victimes, agressées ou violées, puis méprisées ou culpabilisées par certains représentants des forces de l'ordre. Souvent, il faut le dire, peu formés à recueillir leurs paroles. Alors les choses changent, c'est vrai, mais le temps que ce soit le cas partout, ce dispositif pourrait bien aider les victimes à passer à l'acte plus facilement.
Alors voilà pour cette première initiative. On va faire un détour chez vous, à Grenoble, Bérénice, avec du théâtre contre le harcèlement de rue.
Alors pourquoi beaucoup de femmes ne supportent plus d'être abordées dans la rue ? Eh bien, il suffit de demander à celles de votre entourage. Ça arrive tous les jours, plusieurs fois par jour, souvent, très souvent, même avec des insultes. En 2018, selon l'IFOP, plus de 80% des femmes en France disaient avoir déjà subi une forme d'agression, que ce soit dans la rue ou dans les transports en commun. Et c'est justement pour éduquer à cette question du harcèlement de rue que la compagnie Ruelle a monté un petit spectacle d'improvisation qu'elle donne dans les lieux passants, mais aussi dans les quartiers prioritaires de Grenoble. Un comédien aborde une comédienne avec insistance, la suit, commence à lui attraper le bras. Les passants ne sont bien sûr pas au courant qu'il s'agit de théâtre, mais systématiquement, ils finissent par réagir. Et c'est l'occasion ensuite de créer la discussion et la prise de conscience.
Voilà pour cette compagnie Ruelle. Troisième et dernière initiative, Bérénice, ce sont des pauses déjeuner anti-sexisme dans un lycée de Sarcelles.
Et parce que le sexisme, ça commence déjà par l'éducation. Deux professeurs ont décidé de créer un petit groupe d'une trentaine d'élèves, tous volontaires, qui va de la seconde à la terminale. Ils se retrouvent une fois par semaine pour parler. Les filles éduquent les garçons à ce qu'elles vivent. Les garçons prennent conscience de certains enjeux, comme le harcèlement donc, mais aussi les violences ou même l'objectification du corps des femmes. Oui. C'est l'occasion aussi pour eux d'organiser des petites actions pour propager leur message d'égalité, avec par exemple un débat sur les vêtements, avec des silhouettes de femmes que les élèves devront habiller, ou alors des cours de sensibilisation aux dérives des réseaux sociaux. Un jeu de société aussi pour se mettre dans la peau de l'autre genre et pour mieux se comprendre, parce que ça commence surtout par là.
Merci beaucoup Bérénice Charles pour ces trois initiatives que l'on pourra réentendre sur rcf.fr dans quelques minutes. La chronique s'appelle l'initiative du jour, même si aujourd'hui il y en a eu trois. Merci beaucoup Bérénice. Marie-Josée, voilà des initiatives positives nécessaires pour faire bouger les choses. Obligatoire, oui.
Alors, ça obligatoire. Ouais. Il faut partir, la base c'est la formation, l'information, et il faut commencer dans les toutes petites classes. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Le Centre National de Ressources et Résilience travaille sur un référentiel, pour savoir déceler les traumatismes, les psychotraumas sur les personnes qui sont accueillies, donc que ce soit à l'école, au commissariat, chez le docteur, quel que soit l'environnement, en fait. On n'est pas assez sensibilisé et on ne tient pas assez compte de la personne qu'on a en face de soi. La parole, c'est une chose, mais il faut être attentif pour déceler et orienter au plus vite et au mieux les personnes qui ont vécu des violences, quelles qu'elles soient, d'ailleurs. Le rapport Sauvé, la commission Civise, ébranle énormément, parce que c'est vrai qu'on se rend compte, enfin, les personnes qui n'étaient pas au fait ou qui ne voulaient pas être au fait se rendent compte
de la violence
et de la quantité de personnes qui sont touchées par ça, par les agressions sexuelles. C'est un enfant sur cinq. Vous imaginez, vous sortez dans la rue, vous croisez une quinzaine de personnes. Imaginez que vous avez trois personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. On ne peut plus laisser les choses comme elles sont. C'est-à-dire que on dit la parole se libère, mais écoutez ces gens qui libèrent la parole et accompagnez-les vers des soins, accompagnez-les vers une reconstruction, que la justice soit aussi à l'écoute, parce que 1% de plaintes vont au bout. Mais quel est le résultat au bout? Souvent, l'auteur des faits repart sans aucune difficulté et repart. On voit ce qui s'est passé dans l'église, ou dans le sport. Vous évoquiez le sport tout à l'heure.
Alors justement, bonne transition. Vous faites des parfaites transitions ce matin, Marie-Josée. Je tiens à le signaler. Je vais peut-être vous embaucher parce que c'est Annick de Montpellier qui nous a laissé un message en nous disant: deux salariés harcelés par un coach sportif qui ont été en arrêt, déçus de la médecine du travail qui ne les soutient pas moralement. Voilà, ça c'est un témoignage qui est arrivé tout à l'heure de la part de d'Annick. La lutte contre les violences faites aux femmes a été proclamée cause du quinquennat du président Emmanuel Macron. Un Grenelle a été organisé, des mesures décidées, on en a parlé tout à l'heure. Louzette Tiouchichine, est-ce que ça suffit? La réponse, j'imagine, est non, ça ne suffit pas. Mais est-ce que quand même, vous avez l'impression que les gouvernements successifs prennent les choses en main, véritablement?
Ben, comme je vous disais tout à l'heure, ça a beaucoup évolué. C'est, encore une fois, on est quand même... il y a des sujets qui ne sont plus tabous. Le harcèlement sexuel, encore une fois, aujourd'hui, ça a été quand même mis ces dernières années sur le tapis. Il y a eu des réformes qui sanctionnent l'outrage sexiste, puisque finalement, ben, le harcèlement de rue, hein, c'est une avancée considérable pour ces femmes qui marchent dans la rue et qui sont traitées comme si c'était des petits canards, où on fait des petits bruits de bouche, etc. Donc oui, ça a changé. Après, il y a toute une éducation à faire, et c'est vrai que c'est profond. Il y a quand même quelque chose de profond quand on traite de ces dossiers-là. On se dit quand même que c'est très profond dans la société. Ça veut dire qu'effectivement, il faut le prendre dès la maternelle, je pense. Il y a un problème d'éducation. Il y a aussi un problème aussi de mal-être personnel aussi, parce que il y a aussi des personnes qui sont très violentes aussi par rapport à des mal-être personnels et qui ont besoin toujours de considérer qu'il y a quelqu'un de plus faible que soi pour se sentir peut-être un peu mieux. Et c'est vraiment un problème très profond, vraiment très profond. Donc je ne pense pas que ça puisse être réglé du jour au lendemain. On voit des pays, par exemple notamment sur les violences conjugales, avec des avancées considérables, mais en même temps il y a eu des moyens considérables aussi qui ont été mis. C'est un vrai sujet de société.
Marie-Josée, il nous reste quelques secondes avant la fin de cette émission. Peut-être un conseil pour des personnes qui nous écoutent, qui sont victimes de harcèlement au travail, qui ont été victimes de violences sexuelles, qui n'osent pas en parler. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ce matin si ces personnes nous écoutent actuellement sur RCF?
Que plutôt on parle mieux... plutôt on parle, c'est ça en fait. Beaucoup de personnes de l'association... ont eu du mal à parler. Alors il y a différentes générations, hein. On a de très jeunes femmes qui viennent aujourd'hui parce que justement il y a l'effet MeToo et il y a tout ce qu'on évoque un peu partout, et des personnes beaucoup plus âgées qui sont sorties de leur silence et de leurs étreintes de vie en fait. On se rend compte que la vie est toujours compliquée, mais en parler et d'être accompagné le plus tôt possible avant ces délais de prescription, ouais, pour ceux qui veulent déposer plainte, c'est important.
Merci beaucoup, oui. Marie-Josée. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Louzette Tiouchichine, d'avoir été
Merci
avec
vous.
Nous. Je rappelle que vous avez fondé l'association Le Cap. On peut retrouver plus d'informations sur le site harcèlement-france.com. Hein. C'est bien l'adresse de votre association. Merci, Marie-Josée. Je rappelle que vous êtes
Merci
la coprésidente de l'association En Parler, à retrouver sur le site associationenparler.com. Merci également à Samuel qui était à la réalisation du côté de Bordeaux ce matin. Merci à Antoine qui était avec moi, à Mélissa, et puis merci à vous toutes et tous. Bravo pour le courage dans vos mots ce matin, vos témoignages que j'ai pas pu tous lire à l'antenne, mais merci à tous. On se retrouve demain 9h-11h pour finir la semaine avec le Presse Club, et puis je pense donc j'agis se mettre au vert. Bonne journée avec RCF.